Bienvenue à tous. Je suis honoré de pouvoir m'adresser à la communauté de BYU lors de la réunion spirituelle d'aujourd'hui. J'espère et je prie pour que ce que je vais dire aujourd'hui soit accompagné par l'Esprit afin que vous soyez édifiés et élevés. À titre d'information, je me suis joint à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à l'âge de 15 ans, en mai 1978. Mon frère et moi avons été élevés par notre père, qui était un juif laïque, dans le sud de la Californie. Nous nous sommes rassemblés pour les jours redoutables avec nos tantes et oncles et, à bien des égards, nous avons été profondément affectés par nos origines culturelles. Bien que je n'ai pas grandi dans la religion chrétienne, j'avais néanmoins lu une grande partie de l'Ancien et du Nouveau Testament dans ma propre recherche personnelle de la vérité en tant qu'adolescent, et j'étais progressivement attiré vers le personnage et les enseignements de Jésus-Christ. J'ai choisi de centrer mon discours sur deux expériences qui ont profondément marqué ma vie. Ces événements se sont produits lorsque j'étais nouveau converti à l'Église. La première expérience s'est produite environ une semaine après mon baptême. Un ami de mon frère m'a invité à assister à un culte à domicile d'une communauté évangélique. Après la réunion, le pasteur m'a invité à rester pour discuter de ma nouvelle religion. Malgré notre croyance partagée dans la mission divine de Jésus-Christ, son attaque suivante sur le caractère de Joseph Smith était impitoyable. Et en tant que jeune converti âgé de 15 ans, je n'étais pas préparé à défendre l'Église. En plus de mon témoignage très personnel de l'Esprit concernant la véracité du Livre de Mormon, j'ai découvert ce soir-là que la croyance fondamentale sur laquelle nous étions en désaccord était l'idée que nous n'étions pas des créatures, mais bien des enfants d'Esprit de Dieu, notre Père céleste. Comme l'apôtre Paul l'a enseigné aux Athéniens ignorants sur l'Aréopage, Dieu a fait sortir tous les hommes d'un seul sang, et nous sommes tous la race de Dieu. Je pense que cette doctrine m'a touché si profondément parce que j'avais grandi dans un foyer monoparental avec mon père. J'avais une compréhension émotionnelle profonde de l'amour de papa pour nous et j'ai progressivement appris à comprendre et apprécier intellectuellement combien, en tant que parent célibataire, il avait sacrifié pour élever mon frère et moi. En conséquence, même si mon père n'était pas parfait, il m'était naturel et simple d'accepter l'idée d'un Père céleste aimant en tant que grand Dieu universel. La deuxième expérience s'est produite quelques semaines ou quelques mois après que je me suis joint à l'Église. Mon père était un musicien accompli, un violoncelliste à l'Orchestre philharmonique de Los Angeles. Il pouvait également jouer d'une demi-douzaine d'autres instruments de musique et était un peintre très talentueux. Un jour, alors que nous parlions, mon père agnostique m'a posé une question qui ressemblait à peu près à ceci. Les Juifs prétendent être le peuple élu de Dieu, et quand je considère leur énorme influence historique dans les arts, la philosophie, la science et les affaires, ce qui est disproportionné par rapport à leur petit nombre, je dois reconnaître que ce n'est pas une affirmation scandaleuse. Si les membres de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, sont aussi le peuple élu de Dieu, comment se fait-il que je ne vois pas de réalisation et une influence similaire de la part des membres de votre Église? J'ai répondu que les Juifs existaient en tant que peuple depuis plus de 2000 ans, alors que l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, n'avait même pas 150 ans. Rappelez-vous que c'était en 1978. L'hypothèse de mon père, une attente courante, est que la vraie religion de Dieu devrait avoir le pouvoir de transformer ses croyants en personnes qui sont non seulement aimantes, compatissantes, industrieuses et généreuses, en d'autres termes, bonnes, mais aussi en personnes capables de réalisations extraordinaires dans les arts, les sciences, le sport, les affaires, le gouvernement et la religion. Par exemple, le peuple juif peut compter plus de 200 lauréats du prix Nobel, soit environ 20% du total des lauréats. Je crois que Spencer W. Kimball croyait également cela, lorsqu'il a fait une déclaration audacieuse et a lancé un défi dans son discours historique de 1975, intitulé « Le deuxième siècle de l'université Brigham Young ». Il a dit, je cite, « J'espère bien que de cette université et du département d'éducation de l'Église sortiront des gens qui brilleront dans le théâtre, la littérature, la musique, la sculpture, la peinture, les sciences et dans tous les domaines de l'érudition. » Il a alors lancé ce défi. Cette université peut être un creuset d'affinement pour beaucoup de ces personnes qui toucheront la vie des hommes et des femmes du monde entier, bien après avoir quitté ce campus. » Fin de citation. En considérant ces deux expériences ensemble, je crois que notre Père céleste aimant nous a accordé une grâce supplémentaire par les alliances que nous avons contractées. Un but potentiel de ces alliances est de nous donner le pouvoir de devenir des gens qui brilleront et des agents d'affinement si nous choisissons de le faire. L'Évangile devrait également nous amener à être plus conscients et empathiques envers la souffrance de notre prochain. J'ai remarqué cela au cours de mes presque 43 ans en tant que disciple en cherchant à connaître Dieu à travers l'étude des Écritures, en remplissant des appels dans l'Église et en servant l'humanité de différentes manières à travers mon travail. Je suis père de 4 fils et maintenant grand-père de 3 adorables petits garçons. Naturellement, j'espère qu'ils feront les mêmes types de choix de vie qui m'ont apporté beaucoup de bonheur. Si Dieu est aussi mon Père, ne devrait-il pas logiquement avoir la même espérance et les mêmes attentes pour tous ses enfants? Frère Jeffrey R. Holland nous a enseigné davantage sur ce sujet et un vérité clé sur comment nous pouvons apprendre à connaître Dieu dans son discours de la conférence générale d'octobre 2003, intitulé « La grandeur de Dieu ». Je cite encore une fois, « De nombreux objectifs magnifiques ont été accomplis dans la vie et le ministère du Seigneur Jésus-Christ, mais on parle peu souvent d'un grand aspect de sa mission. Ses disciples ne le comprenaient pas complètement à son époque, et beaucoup de gens dans la chrétienté actuelle ne le saisissent toujours pas, mais le Sauveur en personne l'a souligné à maintes reprises. Il s'agit de la grande vérité que dans tout ce que Jésus est venu dire et faire, y compris et surtout dans sa souffrance et son sacrifice expiatoire, il nous montrait qui est Dieu, notre Père éternel. En parole et en action, Jésus essayait de nous révéler et de nous faire connaître personnellement la véritable nature de son Père, notre Père céleste. Il l'a fait, au moins en partie, parce qu'à cette époque, comme à la nôtre, nous devons tous mieux connaître Dieu pour l'aimer plus profondément et lui obéir plus complètement. » Fin de citation. À propos, j'ai fait un compte de mots et j'ai constaté que Jésus a appelé Dieu par le titre de « Père » environ 176 fois dans 3 Néphis et environ 112 fois dans l'Évangile de Jean, beaucoup plus fréquemment que tout autre titre pour Dieu. Après avoir cité le prophète Joseph Smith dans « Lectures on Faith », discours sur la foi, et aussi la grande prière sacerdotale du Sauveur, dans Jean 17, frère Holland a poursuivi en affirmant que le fait d'avoir une connaissance correcte de la personnalité et des attributs de Dieu est essentiel pour que nous puissions exercer le genre de foi qui nous mène à la vie éternelle. D'où l'enseignement du Sauveur lors de la grande prière sacerdotale. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frère Holland a également souligné 2 exemples scripturaires tirés de Moïse 7 et de l'allégorie des oliviers de Zénos dans Jacob 5. Ces 2 récits montrent un Père céleste abattu pleurant sur ses enfants violents et corrompus. Comme il est merveilleux de considérer Dieu comme notre Père, doté d'un corps glorifié et de passion, dont les grandes émotions d'amour et d'empathie, et nous sommes tous ses enfants. J'aime la façon dont Alma a enseigné au peuple de Gédéon dans Alma 7 que, pour notre bien, Jésus prendrait volontairement sur lui les souffrances et les maladies et les infirmités de l'humanité afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple et afin qu'il devienne un homme de douleur et habitué à la souffrance, pour citer Ésaïe. Je me demande ce que ces passages d'Écriture impliquent sur la nécessité pour les disciples de suivre l'exemple du Sauveur et de s'habituer à la souffrance de nos semblables. Curieusement, le maître de la vigne dans Jacob 5,49 semblait éprouver l'empathie du serviteur lorsqu'il a proposé « Allons, abattons les arbres de la vigne et jetons-les au feu, afin qu'ils n'encombrent plus le sol de ma vigne, car j'ai tout fait. » Cela a été suivi d'une question que le maître avait déjà posée 2 fois. « Qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne ? » Le serviteur a alors lancé l'appel suivant. Épargne-la encore un peu. Jacob 5, 50. L'allégorie des oliviers m'intéresse particulièrement puisque je suis généticien des cultures. Mes merveilleux collègues, étudiants et moi, étudions deux cultures et leurs relations avec des parents sauvages, le quinoa et l'avoine. Ces cultures n'ont aucun rapport avec les oliviers, et les trois sont originaires d'hémisphères différents. Mais le quinoa, l'avoine et les oliviers partagent deux caractéristiques. Premièrement, ils ont été domestiqués à partir de mauvaises herbes envahissantes, et deuxièmement, ils ont tendance à revenir à leurs formes ancestrales de mauvaises herbes. Il est intéressant pour moi que les olives cultivées ou domestiquées qui produisent de gros fruits comestibles soient souvent produites en greffant des branches d'oliviers domestiqués, le terme horticole et scion, sur des porte-greffes, un autre terme horticole, d'oliviers sauvages. La génétique diverse du porte-greffe d'olivier sauvage fournit à la plante entière, y compris le scion cultivé, une résistance naturelle aux nuisibles, aux maladies et aux facteurs de stress environnementaux tels que la sécheresse et la chaleur extrême. Parce que le porte-greffe sauvage est si bien adapté et vigoureux, s'il n'est pas soigneusement entretenu avec un élagage régulier, les pousses qui émergent du porte-greffe peuvent pousser au point d'étouffer les branches supérieures du scion et ces dernières finiront par se faner et mourir. De même, si le scion supérieur n'est pas soigneusement taillé, cette partie de l'arbre peut devenir trop productive et lourde, exerçant une pression mortelle sur le porte-greffe. Il n'est pas difficile de voir que les oliviers, l'avoine et le quinoa peuvent servir de merveilleuses métaphores représentant les gens et l'importance de la diversité humaine. En sélection végétale, nous désignons généralement les plantes cultivées comme étant domestiquées ou d'élite, et bien que nous parlions souvent de plantes sauvages, le terme préféré est exotique. Lorsque nous parlons de germoplasme ou matériel végétal que nous avons l'intention d'utiliser dans la sélection végétale. Bien sûr, dans cette métaphore, le germoplasme cultivé ou élite représente les vrais croyants qui, suivant les traces de leur maître, produisent les bons fruits de l'Évangile. Agir dans la bonté et la compassion, s'engager dans l'œuvre missionnaire et l'œuvre du Temple, créer des maisons remplies d'amour dans lesquelles les familles sont enseignées par l'Esprit et accomplir beaucoup d'autres bonnes œuvres qui bénissent l'humanité d'une myriade de multiples façons. Mais les bons fruits ne pourraient-ils pas aussi représenter des chefs-d'œuvre artistiques et des découvertes scientifiques révolutionnaires? En revanche, le germoplasme sauvage ou exotique représente des vies consacrées à la gratification personnelle, à l'irresponsabilité, à la violence et à la désobéissance à la conscience qui éclairent tout homme qui vient au monde. Néanmoins, le seigneur de la vigne et le serviteur voient tous deux qu'il y a de la valeur dans les oliviers sauvages. Ils ont le potentiel de devenir domestiqués ou cultivés par la valeur formatrice de l'expérience parce que, après tout, ils sont aussi des enfants de Dieu dans cette métaphore. Tôt dans ma carrière, j'ai reçu une excellente leçon tirée de la vie réelle sur l'importance de la diversité génétique dans la sélection végétale, la profession que j'ai choisie. Au semestre d'automne 1985, pendant ma dernière année à BYU, j'ai été surpris un jour de recevoir un appel de recrutement du Dr Don Rasmussen, directeur des études supérieures dans le programme de sélection végétale de l'Université du Minnesota Twin Cities. Il était diplômé de l'Université d'État d'Utah, originaire de Ephraim en Utah, et peut-être le sélectionneur d'orge de brasserie le plus réputé des États-Unis. En fin de compte, j'ai décidé de fréquenter l'Université du Minnesota, et l'automne suivant, je me suis retrouvé dans le cours du Dr Rasmussen sur la sélection de cultures qui se pollinisent elles-mêmes. Les principaux objectifs de sélection du Dr Rasmussen étaient de produire de l'orge de brasserie d'une qualité exceptionnelle qui avait des récoltes élevées et une résistance génétique majeure aux deux maladies de l'orge les plus graves de l'époque. Afin d'améliorer les caractéristiques de maltage complexe et de récolte élevée, son programme sacrifiait la diversité génétique. Toutes ces meilleures variétés, qui sont toujours considérées comme la norme pour la qualité du maltage, étaient étroitement apparentées dans le but de concentrer les formes de gènes ou allèles pour ces deux caractéristiques. Par conséquent, lui et ses collègues accordaient peu d'attention aux maladies mineures qui apparaissaient occasionnellement et causaient de légères pertes de récolte. Au printemps 1993, l'année suivant l'obtention de mon doctorat, le nord du Midwest a connu son printemps le plus humide depuis des siècles. L'humidité élevée et les températures fraîches ont créé des conditions parfaites pour l'une de ces maladies de l'orge mineure, la fusariose de l'épi. Le champignon Fusarium réduit non seulement la récolte céréalière, mais produit également une toxine, le déoxynivalnol, DON, communément appelé vomitoxine, en raison de son effet sur les porcs nourris avec des grains infestés. C'était la première d'une série d'années pluvieuses consécutives qui ont vu la fusariose de l'épi devenir la principale maladie de l'orge et du blé dans la grande région de production céréalière printanière de la vallée de la Rivière Rouge. Les statistiques du département de l'agriculture des États-Unis sur la production d'orge de 1987 à 2002 montrent une diminution spectaculaire de la production d'orge dans cette région qui comprend l'est du Dakota du Nord, ainsi que certaines parties du Minnesota et du Dakota du Sud, et qui s'étend jusqu'à la province canadienne du Manitoba. En même temps, de nombreux producteurs des États occidentaux plus secs du Montana, de l'Idaho et de Washington sont passés de la production d'aliments pour animaux à la production d'orge de brasserie. Près de 30 ans plus tard, les sélectionneurs de blé et d'orge sont toujours désespérément à la recherche de sources génétiquement diverses et exotiques qui sont résistantes à cette maladie. Et il semble qu'une grande partie de la production d'orge de malt aux États-Unis a été définitivement déplacée dans les États occidentaux. Notre groupe de recherche à BYU, qui est co-dirigé par moi-même et les docteurs Jeff Mohn et David Jarvis, fait partie d'un effort international visant à cultiver du quinoa qui est mieux adapté à pousser dans le monde entier, y compris dans les plaines tropicales. Les agriculteurs d'Afrique, d'Asie du Sud et des régions de plaines d'Amérique latine aimeraient pouvoir cultiver et nourrir leurs enfants avec du quinoa en raison de son excellente teneur en protéines et en minéraux. Ceci est particulièrement vrai depuis que le boom du quinoa a commencé vers l'année 2005. Les variétés de quinoa d'élite ont été élevées par les civilisations antiques des hautes montagnes des Andes pour être productives dans des environnements très froids et en haute altitude. La principale zone de production est dans les vallées et les plateaux andins, à plus de 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer, environ 75 mètres plus haut que le sommet du mont Timpanogos, qui surplombe le campus de BYU. Cependant, d'autres variétés de quinoa cultivées sont présentes le long de l'étroite bande côtière du centre-sud du Chili, et des types adventices, communément appelés chénopodes, nom dérivé du mot latin signifiant « patte d'oie » en raison de la forme particulière de la feuille, se trouvent dans les régions de plaine du Chili, de l'Argentine et des États-Unis. Avant que nous commencions à travailler sur le problème, les variétés de chénopodes nord-américaines n'étaient pas reconnues comme un précieux germoplasme exotique pour la sélection du quinoa des régions de plaine. Au début de 2003, seulement 2 ans après le début de notre projet de recherche sur le quinoa, j'ai visité des champs de production de quinoa traditionnels dans l'altiplano bolivien. Plus tard, en début de novembre 2003, je me suis absenté d'une conférence scientifique à Denver pendant une journée pour découvrir la production de quinoa aux États-Unis, en visitant la région principale de culture autour d'Alamosa, dans le sud du Colorado. Là-bas, des champs de quinoa très diversifiés sont en partie infestés par le chénopode local et les deux se pollinisent souvent de manière croisée. Les agriculteurs de subsistance appauvris, qui n'avaient pas de mécanisation, marchèrent dans les champs et récoltaient séparément le quinoa adventice à graines noires qu'ils consommaient souvent sous forme soufflée. Le cultivateur découragé du Colorado que j'ai rencontré s'est plaint que tous les 3 ans, ils avaient subi des pertes de récolte quasi totales en raison de la pression des insectes nuisibles et de la chaleur excessive. Suite à ces 2 expériences, mes collègues et moi avons commencé à réfléchir à la possibilité que la solution à l'échec de la production de quinoa aux États-Unis soit de le croiser avec des variétés de chénopodes adaptées aux régions de plaine. L'année suivante, en 2004, nous avons commencé à récolter des graines de population adventice, principalement en Utah et en Arizona. Depuis, notre collection s'est élargie pour inclure des échantillons de centaines de populations de chénopodes poussant dans des environnements aussi divers que les déserts de Sonora et de Mojave, la côte du Golfe du Mexique, les Grandes Plaines, la Californie et même aussi loin à l'est que la côte de la Nouvelle-Angleterre. Nous croisons maintenant des quinoas d'élite avec ces variétés exotiques de chénopodes et produisons des populations de reproduction que nous partageons avec des sélectionneurs de quinoa dans une douzaine de pays sur quatre continents. Voici une photo de quelques lignes avancées que nous avons produites à partir de deux combinaisons croisées de quinoa par pattes d'oie. Il y a deux ans, en revisitant la région du quinoa du Colorado, cette fois non pas en novembre, mais pendant la saison de croissance, nous avons remarqué que les champs de production de quinoa avaient des plants de chénopodes indigènes poussant autour de leurs bords. De plus, les champs de quinoa contenaient de nombreuses plantes présentant des caractéristiques partagées entre le quinoa et la forme adventice, tout comme nous étions habitués à voir dans les champs de quinoa andins en Bolivie et au Pérou. L'année suivante, nous avons échantillonné 15 plantes montrant des degrés variables de caractéristiques de chénopodes et après l'analyse de la séquence d'ADN par un de mes étudiants, Jake Taylor, et les DRS Mon et Jarvis, nous avons confirmé l'introgression étendue des gènes de chénopodes dans cette population. Curieusement, de nombreuses années après la catastrophe du quinoa de 2003, le problème ne résidait plus dans l'incapacité à produire des graines, c'était maintenant un problème d'hétérogénéité dû au processus naturel d'allogamie qui consistait à convertir le quinoa en une culture adaptée par mélange génétique avec son cousin adventice mais natif. En d'autres termes, les gènes du chénopode adventice avaient littéralement sauvé l'industrie du quinoa du Colorado. Bien que le quinoa andin ait été produit pour un type d'environnement très spécifique, dans l'ADN des cellules de quinoa se trouve une diversité génétique supplémentaire parce qu'il s'agit d'une plante polyploïde, une plante qui combinait autrefois les chromosomes de deux espèces distinctes de 18 chromosomes en une seule plante de 36 chromosomes. En raison de cette diversité accrue, cet ancêtre de 36 chromosomes était plus vigoureux que ses parents diploïdes de 18 chromosomes et était donc capable d'envahir et de coloniser une gamme beaucoup plus large d'habitats, d'où sa dispersion dans les environnements de régions de plaine et de montagne de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sous forme de chénopodes adventices. Alors que les humains migraient dans l'hémisphère occidental, le chénopode était déjà adapté aux perturbations causées par les humains lorsqu'ils défrichèrent des terres pour des camps de chasse et finalement des jardins et des villages. Les humains ont commencé à consommer des feuilles de chénopode dont la saveur rappelle celle de son cousin l'épinard et ont finalement commencé à consommer les graines noires, petites mais nutritives. Avec le temps, les premiers agriculteurs indigènes ont choisi des plantes ayant des graines plus grosses et non noires et ont commencé à les semer. Et ainsi, la domestication du quinoa a commencé dans les Andes et dans au moins deux autres endroits dans l'ancienne Amérique du Nord. Si la diversité génétique est si importante pour la survie des cultures, qu'en est-il chez les êtres humains? Alors que la réponse génétique à cette question est un oui retentissant, je crois que la réponse culturelle à cette question est aussi oui. Avec le Dr Len Novilla, professeur de santé publique de BYU, je co-préside le comité de diversité et d'inclusion de la Faculté des sciences de vie. Nous avons examiné de la documentation conçue avec soin sur l'organisation d'entreprises et la direction provenant de tout le pays. Les données, y compris celles provenant de sources aussi réputées que la Harvard Business Review, indique que les entreprises et autres organisations ayant des structures de direction ethniquement et sexuellement diversifiées font systématiquement mieux que celles plus homogènes. C'était incroyable d'être témoin du défilé de diversité culturelle et ethnique présenté intentionnellement lors de la session du dimanche matin de la conférence générale d'avril 2021. Il est clair que nos dirigeants de l'Église reconnaissent la valeur de nos expériences et de nos diverses origines ethniques et culturelles. Nous connaîtrons encore plus de succès à mesure que nos dirigeants reflètent le paysage toujours plus diversifié des membres internationaux de l'Église. En revenant à la question de papa sur les réalisations des Juifs par rapport aux membres de notre Église, est-il possible que la différence de production entre nos deux groupes de croyants puisse être attribuée à la diversité? En examinant l'histoire des Juifs, nous voyons un groupe de personnes religieusement et ethniquement cohésives qui ont initialement émigré ou ont été chassés de leur patrie proche orientale dans des environnements multiculturels tumultueux et souvent périlleux, dans des endroits comme l'Europe centrale et orientale, l'Ibérie et le Maroc, la Méditerranée orientale, l'Arabie du Sud et l'Éthiopie. Nous appelons cela la diaspora juive. À juste titre, ce mot vient d'un terme botanique, diaspore, se référant à la graine et à tous les tissus végétaux associés nécessaires pour une séparation réussie de la plante mère. Dans ces divers environnements ont émergé des cultures juives distinctes, Ashkenaz, Sepharad, Mizrahi, Teman et Falasha. Comparer cette expérience historique avec les débuts de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Par révélation, nous avons en gros fait exactement le contraire. Nous avons fui la persécution dans l'est des États-Unis pour l'isolement relatif du désert occidental. Bien que l'Église ait envoyé des missionnaires dans de nombreuses régions du monde, pendant le premier siècle, nous avons ramené les convertis pour qu'ils s'assimilent ici, à Sion. Par conséquent, bien que l'Église ait rassemblé des dizaines de milliers de convertis scandinaves ici en Utah, représentant 16% de la population de l'Utah lors du recensement de 1904, les descendants des Suédois et des Norvégiens avec qui j'ai vécu pendant 6 ans au Minnesota semblaient avoir une affinité plus forte pour leurs racines multiculturelles que leurs cousins ici en Utah. Ceci est en dépit de notre très forte consécration à l'œuvre du Temple et de l'histoire familiale dans l'Église. Je me demande si l'une des conséquences du rassemblement physique en Sion n'est pas que nous confondons parfois la culture prédominante de l'ouest des montagnes rocheuses dans laquelle nous vivons ici en Utah et dans le sud-est de l'Idaho avec une culture de l'Église officielle, espérant que nos convertis issus de milieux multiculturels et internationaux adopteront les modèles culturels ici comme preuve de leur conversion complète. Lors de la conférence générale d'octobre dernier, William K. Jackson des 70 a parlé d'une « culture du Christ universel ». Il a noté « La culture du Christ découle de l'Évangile de Jésus-Christ, qui est éternel, et elle explique le pourquoi et le comment de notre existence. Elle est inclusive, pas exclusive. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours n'est pas une société occidentale ni un phénomène culturel américain. C'est une Église internationale, comme elle a toujours été destinée à l'être. Dans le monde entier, les nouveaux membres apportent leur richesse, leur diversité et leur enthousiasme dans notre famille qui ne cesse de grandir. Pour que BYU réalise l'espoir, l'attente et le défi prophétique, le défi lancé il y a 45 ans par le président Kimball et devienne pleinement un creuset d'affinement de gens qui brilleront, je crois que nous devons accueillir et nourrir la diversité croissante de nos frères et sœurs multiculturels américains et internationaux dans toutes leurs origines ethniques, cultures, langues et expériences de vie. In all of their ethnicities, cultures, languages, and life experiences. Le même Sauveur qui nous a exhortés à connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, presque dans le même souffle, a prié notre Père, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. De plus, je crois que notre Père céleste attend de nous que nous développions cette unité et que nous cultivions nos talents et capacités divers afin que nous puissions être comptés parmi les serviteurs peu nombreux de l'allégorie des oliviers chargés de tailler et d'édifier sa vigne. Il a épargné la vigne, ainsi que nous tous, pour ce but sacré. Je suis profondément reconnaissant envers les deux jeunes missionnaires, Elder Leavitt et Elder Jenkins, qui ont frappé à ma porte il y a tant d'années. Je témoigne que l'Évangile de Jésus-Christ qu'ils m'ont enseigné est vrai. Je crois que Jésus-Christ est notre Sauveur qui a accompli l'expiation et qui a parfaitement illustré les qualités de son Père céleste aimant, qui est également le nôtre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.